France Inter. Les démarches juridiques ont presque toutes échoué. Les résultats dans le Michigan ont ainsi été certifiés hier. Et les voix se sont multipliées ces derniers jours au sein du Parti républicain pour exhorter Donald Trump à reconnaître sa défaite. Ce que le locataire de la Maison Blanche se refuse encore à faire, mais... il a donc fini par accepter de lancer le processus de transition avec l'équipe de Joe Biden. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour.
Vous êtes à New York où vous suivez donc les élections américaines pour France Inter. 16 jours exactement après la proclamation des résultats, Donald Trump accepte donc de lancer ce processus. En fait, Sébastien, il a été obligé de suivre la directrice de l'agence qui supervise cette transition.
Oui, c'est la première reconnaissance officielle de l'équipe Trump que Biden a gagné l'élection, mais elle est faite presque sous la contrainte et presque à moitié, puisque Trump s'est exprimé en fait sur Twitter après Emily Murphy, la responsable de cette administration des services généraux, quand il a su qu'elle avait signé le courrier qui lance officiellement le processus. Alors la fonctionnaire républicaine nommée par Trump il y a 3 ans assure qu'elle n'a reçu aucune pression, dans la lettre qu'elle adresse d'ailleurs à Monsieur Biden et pas au président élu. Elle écrit qu'elle prend sa décision au regard des derniers développements locaux, notamment le Michigan, qui vient de valider ses résultats en faveur de Biden. Et puis Trump, lui, la remercie dans ses tweets. Il dit que c'est lui qui lui a demandé de lancer la transition dans l'intérêt du pays. Mais il ne reconnaît pas la victoire de Biden. Il promet de poursuivre ce qu'il appelle un juste combat. Et il dit « je crois que nous l'emporterons ». Les recours en justice, pourtant, sont retoqués les uns après les autres.
Alors Sébastien, que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, ce courrier de la GSA reconnaît Joe Biden comme le président élu, même si, encore une fois, le titre n'y figure pas. Et puis la suite, eh bien, elle est aussi dans la lettre. De l'argent d'abord, plus de 6 millions de dollars de fonds de transition financés par le contribuable qui sont débloqués, des bureaux, et puis un accès, enfin, aux agences gouvernementales et à des réunions pour avoir certains renseignements confidentiels. Bref, les deux équipes vont se parler. Le camp Biden salue une étape nécessaire qui permet un transfert du pouvoir pacifique pour commencer à relever les défis, écrit Biden, maîtriser la pandémie et remettre l'économie sur les rails.
Merci Sébastien Paour. À New York ce matin pour France Inter, Joe Biden qui a donc commencé à constituer son équipe avec une première, pour la première fois, une femme, Janet Yellen, sera à la tête du Trésor.
Il est 7h04, Agnès. En France, intervention très attendue d'Emmanuel Macron.
Le chef de l'État prendra donc la parole à 20h pour savoir ensemble où nous allons et comment y aller. Conjuguer espoir et prudence après 3 semaines de reconfinement. Les derniers arbitrages seront pris ce matin lors d'un conseil de défense. Alors, quelles sont les décisions attendues et les points encore en suspens ? Le détail avec Yannick Falt.
Principale mesure, la réouverture attendue des commerces dits non essentiels le 1er décembre, voire dès ce week-end. Il faudra en revanche patienter pour les cafés-restaurants, au moins jusqu'à janvier. Pas de changement non plus concernant le télétravail. Les lieux de culte devraient rouvrir. Jean Castex l'a déjà annoncé, avec sans doute la même jauge que pour les enterrements, 30 personnes maximum. Mais si les lieux cultuels rouvrent, pourquoi pas les lieux culturels ? Mesure d'équité pour une source gouvernementale qui pointe toutefois les difficultés de la décision. Si la jauge est la même, 30 personnes, beaucoup de cinéma ou théâtre risquent de ne pas rouvrir, pas viable économiquement, plus simple pour les musées avec le protocole appliqué dans la grande distribution. Enfin, la règle du 1h 1 km pour les promenades ou les footings est également en discussion, avec une piste évoquée, élargir le périmètre à 5 voire 10 km autour du domicile, mais l'attestation de déplacement ne sera pas supprimée.
La réouverture des petits commerces semble donc acquise, d'où une effervescence certaine dans les boutiques du centre-ville de Toulouse. C'est un reportage de Flore Catala.
Au milieu des cartons, des boîtes entassées partout et des rayons désordonnés, Jimmy s'affaire dans sa boutique de CD du centre-ville.
Là, la boutique est complètement dévastée, il y en a partout, mais on va tout remettre en ordre, tout ce qu'on avait foutu par terre en bordel.
Beaucoup de rangements au programme après un mois de fermeture. Les commerçants se préparent déjà à rouvrir. Même si les annonces n'ont pas encore été faites, tous les espoirs sont permis. C'est en tout cas l'état d'esprit de Sophie qui tient une boutique d'articles pour bébés.
J'espère entendre de bonnes nouvelles, je croise les doigts.
On attend ces annonces impatiemment pour connaître les délais, la date et également les protocoles ou les conditions dans lesquelles nous pourrons ouvrir.
Ces conditions, on en connaît quelques-unes déjà. Sur les jauges notamment, il faudra respecter la règle des 8 mètres carrés d'espace par personne. Ça veut dire moins de monde en boutique. Et pour certains, ça s'annonce difficile.
8 mètres carrés, ça va être ingérable parce qu'on a des petites surfaces de vente. Même si on ne fait rentrer que 2 ou 3 personnes à la fois, les 8 mètres carrés sont ingérables.
Nicole tient un magasin de vêtements à 2 pas du Capitole et pour elle, ces jauges, c'est non.
Non, on ne va pas filtrer. Les gens rentrent et achètent. On n'est plus en phase de filtrer. Voilà, c'est le 3e mois de confinement. rapidement, donc on a besoin de trésorerie et on a besoin de bosser.
Et qui dit jauge limitée dit risque de file d'attente aussi devant les enseignes, un nouveau défi à gérer et organiser pour les commerçants.
Reportage de Flore Catala de France Bleu Occitanie. Incertitude encore donc sur la règle du 1 km et les randonneurs montent au créneau. Marcher dans la nature fait du bien et le risque de contamination y est très faible. C'est ce qu'explique Didier Babin, président de la Fédération française de randonnée pédestre, au micro de Stéphanie Mora.
Pouvoir être dans la nature suffisamment longtemps pour que psychologiquement on se sente bien et non pas qu'on se sente enfermé, puisque du coup on sort une heure mais avec l'œil rivé sur la montre. Il faut pas oublier l'attestation, il faut faire attention à pas être trop loin. Il faut pas se le cacher, moi les remontées que j'ai, c'est qu'il y a quand même chez nous pas mal de gens qui font un peu plus qu'un kilomètre à la ronde, parce que autrement c'est pas possible. Donc tout ça finalement est plus stressant qu'autre chose, alors que normalement on devrait être en état de pure liberté, de pur repos quand on marche à l'extérieur. Le résultat est inverse de ce qu'il devrait être.
Et quant aux stations de ski, elles seront d'ici une dizaine de jours si elles peuvent ouvrir pour les vacances de Noël. Et c'est dans ce contexte que les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 36e campagne avec d'ores et déjà 10% d'inscrits de plus que l'an dernier. Une campagne à laquelle s'associent les 44 stations locales de France Bleu avec des programmes spéciaux tout au long de la journée. Des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement hier soir place de la République à Paris pour expulser les centaines de migrants venus installer des tentes à la nuit tombée. Des migrants expulsés il y a une semaine d'un campement en Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur évoque des images choquantes et demande un rapport au préfet de police. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Après Danone, Total envisage une baisse de ses effectifs. Des négociations ont débuté hier pour un plan de départ volontaire dans la branche pétrochimie. Un plan qui, selon la CGT, pourrait concerner 700 personnes. Thierry Defresne est le coordinateur CGT du groupe Total.
Total nous annonce sa volonté de négocier un plan qui, selon Total, amènerait entre 1400 et 1500 salariés à quitter le groupe. Mais Total ajoute un principe, celui de dire que les départs seront compensés sur les sites industriels, dans la R&D et dans les métiers techniques uniquement. Et que, par ailleurs, tous les départs qui seraient engendrés au niveau des sièges sociaux ne seraient pas remplacés. Donc, selon nos estimations CGT, il pourrait s'agir de 700 emplois. Ça n'est pas une surprise, mais néanmoins, ça reste une grande inquiétude. Chez Total, comme ailleurs, on a besoin d'emplois. En France, on a besoin des emplois et on pense pas que ce soit le moment, effectivement, de supprimer des emplois comme Total prévoit de le faire. Donc, c'est extrêmement inquiétant pour Total, mais aussi pour l'emploi en France, malheureusement, parce que ce plan social vient s'ajouter à tous les autres qu'on connaît dans l'actualité en ce moment.
Un propos recueilli par Fabien Cazot.
Il est 7h09, l'appel au secours d'une Française détenue en Syrie avec ses 4 enfants.
La jeune femme convertie à l'islam radical est partie en Syrie en 2015, souffre d'un cancer du côlon et demande à être rapatriée en France. Elle a demandé à sa mère, Pascale Descamps, une habitante de Boulogne-sur-Mer, de remuer ciel et terre pour être prise en charge, elle et ses enfants âgés de 2 à 11 ans. Cécile Bidot.
Après être restée des mois sans nouvelles, Pascale Descamps a reçu il y a une semaine plusieurs messages vocaux de sa fille. Elle lui annonce sa maladie, un cancer du côlon qui nécessite opération et traitement.
Ici, on me propose de faire une opération dans les conditions syriennes, quoi. On m'a dit que je risquais ma vie dedans. Je demande un rapatriement sanitaire pour pouvoir me faire opérer, amener mes enfants.
Pascale Descamps a écrit au président de la République, au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, de la Justice, sans réponse pour le moment.
Je ne peux pas penser qu'en connaissance de cause, on va laisser mourir ma fille déjà, parce qu'elle a une chance d'être sauvée si on la rapatrie, et elle ne peut plus protéger mes petits-enfants. Ce serait monstrueux, je pèse mes mots, mais ce serait condamner ma fille à mort et une torture pour mes petits-enfants.
Le gouvernement français procède à des rapatriements au cas par cas. Une vingtaine d'enfants seraient revenus de Syrie l'an dernier. Pour les adultes, la politique est de les laisser être jugés sur place. Emmanuel Daoud est l'avocat de Pascale Descamps.
C'est une question de volonté, c'est de la réelle politique. On ne veut pas créer de précédent. Je serais ravi qu'on me contredise. Nous espérons que ce transfert, pour des raisons humanitaires, sera organisé.
Si elle était rapatriée en France, la fille de Pascale sait qu'elle serait placée en détention et jugée après son hospitalisation.
Reportage de Cécile Bidot. Victoire obligatoire pour le PSG ce soir, 4e journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens reçoivent les Allemands de Leipzig. Après 2 défaites en 3 rencontres, le PSG compte ce soir sur le retour de Mbappé et Neymar pour reprendre espoir. Il est passé en 10 jours de statut de leader favori à bon dernier du Vendée Globe, mais il s'accroche. Jérémy Bayou, contraint de retourner au Sable d'Olonne pour réparer après une grosse avarie. Il a repris la mer il y a tout juste une semaine. Alors quels sont aujourd'hui ses espoirs, ses doutes? Fanny Le Chevestrier a pu le joindre au milieu de l'Atlantique.
Il fallait que j'y retourne, c'est ce qu'avait déclaré Jérémy Bayou au moment de repartir 9 jours après le reste de la flotte. Une semaine plus tard, le Breton longe la côte africaine, toujours à la dernière place du classement, au milieu des vents faisant siffler son bateau et parfois rattrapé par le spleen.
C'est sûr que moralement j'ai des hauts et j'ai des bas. Quand je regarde la carte, je vois qu'ils sont au milieu de l'Atlantique Sud et que moi je suis au milieu de l'Atlantique Nord. C'est pas facile à vivre.
Ce qui lui manque le plus, c'est cette concurrence qui vous pousse à vous dépasser, explique-t-il. Une situation finalement inconnue pour lui, mais justement, vraiment seul au milieu de l'océan, il découvre une autre facette de son sport.
C'est dingue d'aussi peu connaître un sport que t'as pratiqué toute ta vie, quoi. J'ai fait la voile toute ma vie et au final, c'est un sport que je connais pas parce que c'est jamais deux fois la même chose. Découvre une facette plus empreinte d'humain que ce que j'imaginais.
Touché, autant qu'étonné par tous les mails de soutien qu'il reçoit chaque jour.
Parce que t'es quand même dernier de la course, quoi, donc t'as l'impression de pas mériter. Mais c'est sûr que ça fait du bien et c'est génial. Merci de publier.
Sur les réseaux sociaux, c'est lui pourtant que les enfants, mais aussi les adultes remercient d'avoir continué l'aventure, même sans rêve de victoire au bout.
Fanny Le Chevestrier, ce matin au classement, c'est Charlie Dalin qui fait course en tête devant Thomas Ruyant et Jean Le Cam.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.